affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Bonjour et bienvenue sur les ondes de Canal Académie. Aujourd'hui, plus que d'habitude, nous allons vous demander d'avoir l'œil et le bon, puisque nous passerons cette émission en compagnie d'un éminent chirurgien ophtalmologiste, le professeur Yves Pouliquen, de l'Académie française et de l'Académie de médecine. Le professeur Pouliquen est un spécialiste de chirurgie oculaire de renommée mondiale. Il est déjà l'auteur de plusieurs livres à succès qui ont été évoqués sur les ondes de Canal Académie et ailleurs, évidemment. Celui qu'il vient nous présenter aujourd'hui s'intitule « L'œil dévoilé, l'œil guéri ». Il est publié aux éditions Odile Jacob. Et c'est un ouvrage qui fait autant figure de mémoire que de synthèse sur les grandes évolutions de la chirurgie de l'œil. C'est aussi un plaidoyer pour une certaine éthique de la chirurgie fondée sur l'engagement, sur la foi et sur la discipline, et l'on pourrait ajouter fondée sur l'humanité, sur l'empathie et sur le soin du malade, parce que c'est ce qui ressort de cet ouvrage et qui parfois manque tellement aux patients d'aujourd'hui. Alors professeur Pouliquen, bienvenue, merci de nous honorer de votre présence. Vous avez la particularité de vous être trouvé à un moment charnière de votre discipline, puisqu'en un demi-siècle, il s'est passé plus de choses que durant tous les siècles précédents, et on a vécu donc une espèce de progression fulgurante de l'ophtalmologie, de la médecine en général, mais aussi donc de l'ophtalmologie. Alors pour poser le contexte et peut-être expliquer aux auditeurs de Canal Académie à quel point votre discipline a été métamorphosée en 50 ans, pourrait-on revenir sur ce qu'on pourrait peut-être appeler d'ailleurs une proto-chirurgie, et notamment à travers un cas que vous exposez dans l'œil dévoilé, l'œil guéri, qui est celui de la cataracte.
Oui, bien sûr, la cataracte dont l'opération est millénaire, multimillénaire.
Ce que j'ai découvert, honnêtement, je pensais que ça ne se soignait pas jadis.
Et qui a trouvé, si vous voulez, d'abord la nature de ce qu'était la cataracte seulement au début du XVIIIe siècle et qui a motivé une nouvelle manière d'opérer au milieu du XVIIIe siècle aussi par un grand Français qui était Jacques Daviel, qui a substitué à l'abaissement du cristallin. L'abaissement du cristallin s'explique de la façon suivante. Les anciens avaient remarqué que quand la pupille devenait blanche, ils ne savaient pas ce que c'était, mais si on enfonçait une aiguille ou une épine dure dans l'œil, qu'on transfixiait cette masse blanche et qu'on la décrochait, elle tombait dans l'œil et à ce moment-là, la pupille redevenait libre et les gens qui étaient aveugles pouvaient retrouver une certaine acuité visuelle, moins d'un dixième, mais enfin, qui leur permet de revivre, de travailler.
Avec moins d'un dixième, on distingue les silhouettes ?
Oui, avec moins d'un dixième, on distingue les... Oui, on peut se mouvoir, on peut faire un certain nombre de choses. C'était fort imprécis. Après, naturellement, des lunettes ont permis d'améliorer ces résultats. Mais c'est surtout Daviel qui a changé la méthode et qui a, au constat des complications qui accompagnaient l'abaissement, a promu l'extraction.
D'accord. Alors, si vous voulez bien, pourrait-on revenir sur les siècles précédents ? Parce que j'ai été très frappé. En fait, j'ai beaucoup d'imagination et j'ai imaginé les souffrances monstrueuses qui devaient être endurées par ces gens quand ils se faisaient opérer. Parce que comment faisait-on pour anesthésier quelqu'un et comment faisait-on pour l'empêcher de bouger son œil ?
Bon, ben,
est-ce qu'on le sait, en
fait ? Paradoxalement, la transfixion de l'œil dans l'abaissement n'est pas douloureux.
Mais comment fait-on pour pointer même ce poinçon ou l'aiguille dans l'œil d'un patient ?
Alors, en principe, on se mettait sur les genoux des patients. Quelqu'un, un aide, lui maintenait la tête et pas avec une adresse
relative.
On ponctionnait. Vous savez que ça se fait encore en Afrique chez certains tradis praticiens. ce qu'on appelle les tradipraticiens, refusent l'extraction et continuent à baisser. Or, il est vrai que la ponction de l'œil n'est pas douloureuse. La preuve, c'est que dans une infection, hélas, fréquente maintenant, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, on fait des ponctions, des injections dans l'œil très fréquentes qui ne sont absolument pas douloureuses. Il faut dire que les aiguilles sont tout de même
autrement plus
parfaites, alors que l'épine durcie au feu ou les premiers instruments, les premières aiguilles à transfixer le cristallin ne devaient pas être très, très, très bien aiguisées, bien, très opérationnelles. Mais n'empêche, ce n'était pas douloureux. Ce qui a été douloureux, c'est l'invention de Daviel. Parce que Daviel, voulant extraire le cristallin, non pas le cristallin, mais le noyau du cristallin, pour me résumer, c'est une enveloppe dans laquelle il y a un noyau. Et lorsqu'on a baissé le cristallin dans l'œil, on a baissé l'enveloppe plus le noyau. Lui, Daviel, avait compris qu'en ouvrant la capsule du cristallin, l'enveloppe par en avant, il suffisait d'appuyer sur l'œil pour que le noyau sorte. La capsule transparente restant, le résultat était le même, la pupille était libre. Alors, comment faire pour ouvrir l'œil? Alors, il avait inventé une pique. Et on transfixiait l'œil en bas au limbe, entre la cornée et la sclérotique blanche. Et avec cette pique, il faisait une large ouverture qu'il complétait avec deux ciseaux, un droit et un gauche, pour ouvrir largement. Il incisait l'enveloppe et en appuyant sur l'œil, ça tombait. Le noyau du cristallin tombait. Et on ne faisait pas de fermeture, on mettait un pansement, on regardait 8 jours après, c'était tout. C'était très douloureux. Parce que vous avez quelquefois eu une poussière dans l'œil. Je peux vous dire que quand on essaie avec un couteau d'ouvrir la cornée, ça fait mal. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? Alors, ils avaient des tas de méthodes. Ils soufflaient des aromates sur l'œil et on donnait un peu d'opium aussi.
Ah oui,
on
oui.
donnait un peu d'opium. N'empêche qu'on s'asseyait sur les jambes du patient qui était assis lui-même. Un aide le tenait. Et on faisait ces gestes extrêmement douloureux le plus rapidement possible.
Et comment obtenir de la précision alors? Parce que mécaniquement, le...
Non, c'était de l'adresse. C'était de l'adresse, mais pas de la précision. Enfin, c'était de l'adresse, si vous voulez. C'était une habileté chirurgicale que revendiquaient un certain nombre de chirurgiens, qui étaient en général des chirurgiens qui faisaient toute la chirurgie et qui se spécialisaient dans l'œil. Et l'un des grands initiateurs de Daviel dans sa vocation d'oculiste, ça a été le chevalier Taylor.
À quelle époque?
Et qui était exactement à la même époque, au XVIIIe siècle, qui se baladait en France en lui en faisant des abaissements toujours. Mais il était célèbre parce qu'il avait opéré beaucoup de princes et il a même opéré Jean-Sébastien Bach. Ça s'est très mal terminé.
Ah oui, c'est vrai. Oui.
Puisque Frédéric de Prusse voulait le pendre. Bon, voilà. Mais c'est lui qui a donné à Daviel l'idée de s'occuper de l'ophtalmologie.
D'accord. Voilà. Alors, on parle là des praticiens, mais peut-on évoquer peut-être le cas du patient? Parce qu'il fallait encore une endurance phénoménale. Pardon, encore une fois, mais j'ai été extrêmement... J'avais lu, naguère, les mémoires du baron Percy, qui était le chirurgien de la Grande Armée. C'est beaucoup plus violent que n'importe quel récidive. C'est monstrueux.
C'est monstrueux. C'était monstrueux, mais vous savez, oui, l'exemple de la Grande Armée...
Ou même de Louis XIV, d'ailleurs, qui lui était un moyen et qui souffrait abominablement avec ses soins dentaires.
Ah oui, mais il a passé une vie d'enfer, le pauvre Louis XIV. Mais les chirurgiens, vous savez, ont été tout de même de gens très habiles et très rapidement mis sur le chantier, puisque la guerre, c'était essentiellement leurs travaux, leurs activités, c'était la guerre, les blessures de guerre, les blessures occasionnelles. Et ça leur a fait faire beaucoup de progrès. Et surtout, ça a stimulé l'adresse. Et quand on revient aux soldats de la Grande Armée, dont la résistance était absolument fabuleuse, on vous décortiquait, on vous enlevait un bras en 3 minutes. On vous enlevait une jambe en 3 minutes. Et il y avait la méthode de l'arrêt en 3 coups que l'on apprenait à l'époque sur des cadavres. On vous montrait qu'il fallait couper 3 tendons, clac, clac, clac.
Comme un poulet.
Coaguler l'artère. Et c'était... la désarticulation était moins douloureuse que l'amputation. L'amputation qu'il fallait couper les muscles, scier le scier dans un malade qui criait, qui hurlait, mais qu'en général, on avait complètement rendu ivre par de fortes doses d'alcool. En général, ils avaient une anesthésie alcoolique, ça ne les empêchait pas de souffrir, mais ça leur permettait de supporter cette chose. Mais la résistance à la douleur était à l'époque très, 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 très différente de la nôtre.
Oui, j'ai l'impression.
Très différente de la nôtre. Et en ce qui concerne l'œil, il y a beaucoup de gens qui refusait de se faire opérer. Montesquieu a refusé de se faire opérer.
Pour quelle raison alors?
Parce qu'il avait peur que ça rate, il avait peur de, aussi d'être opéré. Et il y avait beaucoup de patients, même les plus connus, qui refusaient d'être opérés parce qu'ils en avaient peur. Voilà. Donc c'est une méthode qui est devenue tout de même beaucoup plus douce à la fin, au début du 19e siècle, puis au cours du 19e siècle, c'est affiné.
Alors, au 19e siècle, l'anesthésiant, c'est la cocaïne, c'est cela?
Oui, la cocaïne. En plus, on a dilaté la pupille, avec donc c'était plus difficile. Voilà, avec la belladone. Et moi, j'ai opéré en 1960 à la méthode du 19e siècle, avec encore les mêmes méthodes. C'était un grand art.
Pouvez-vous nous en dire un peu plus, justement?
Non, c'était un grand art, parce que tout dépendait de l'habileté. Il y avait une anesthésie qui était assez bonne, mais pas tout à fait merveilleuse. Je dirais que les prémédications calmantes, à l'époque, n'existaient pas beaucoup. Et l'anesthésie locale se faisait par des piqûres autour de l'œil. Les tissus étaient un peu gonflés. Et sur cet œil, on faisait les mêmes choses que Daviel, mais avec la pique, au lieu de la mettre en bas, on la mettait en haut. On ouvrait avec les deux ciseaux latéraux, mais sur un œil anesthésié, ça ne se sentait pas. Et ensuite, on extrayait le cristallin. Et moi, j'ai connu l'extraction qu'on faisait quand j'ai commencé, c'était la totalité du cristallin. C'est ce qu'on appelait la cataracte intracapsulaire, c'est-à-dire que le noyau était dans sa capsule, on l'enlevait en totalité. Ça donnait de très bons résultats parce que la pupille était très, très libre. Ça avait aussi des inconvénients, c'est que on pouvait avoir des issues de vitrées, on pouvait avoir des issues de vitrées, c'est-à-dire en enlevant le cristallin, suivait le contenu de l'œil qui le vidait en partie, donc ça pouvait. Et donc c'était une intervention délicate qu'il fallait vraiment être un chirurgien éprouvé pour la bien accomplir. Et j'ai appris, moi, avec des chirurgiens, cette méthode, et qui était tout à fait efficace, mais qui n'emportait quand même pas moins certaines difficultés. Elle n'était réservée, en général, qu'aux médecins des hôpitaux. Aux médecins des hôpitaux, voilà. Alors, tout s'est transformé.
Oui. Alors, justement, comment un adolescent des années 50 choisit-il d'abord de faire de médecine et ensuite de se spécialiser dans l'ophtalmologie? Comment est-ce que la vocation vous est venue?
Alors, la vocation médicale m'est venue bien avant. J'étais au lycée Saint-Louis, je préparais normal sup en sciences expérimentales et je voulais être médecin, donc je suis allé m'inscrire en médecine. Donc la vocation était là. Et j'avoue que la médecine interne me passionnait. Mais
et pour quelle raison, si ce n'est pas indiscret?
Parce que j'adorais la médecine interne qui commençait.
Mais comment ça vous est venu, en fait? Quel a été le déclic?
Le déclic pour que je sois médecin?
Pour la médecine, oui.
Eh bien, je vais vous dire. C'était en 1945. J'étais à Lille-aux-Moines. J'étais en vacances parce que mon père venait de mourir. Et j'étais en vacances chez des amis qui était en relation avec Albert Delaunay, qui était professeur à l'Institut Pasteur. Et j'avais un panari. Et pendant toutes les vacances, il m'a expliqué ce qui se passait dans mon panari. La biologie m'a fasciné. J'ai dit, je ne ferai jamais rien d'autre. C'est ça, ces petits polynucléaires qui allaient bouffer mes tissus. Ça m'avait passionné. Et après, je n'ai eu qu'une idée. Et mon père, qui était instituteur, avait dit, toi, tu seras normalien. J'étais bon élève. Et quand il est mort, ma mère a décidé aussi que je serais normalien, donc je suis venu à Saint-Louis, c'était pas pareil. Mais mon panari, les souvenirs que j'avais d'Albert Delaunay, qui m'a conseillé alors, je suis allé le revoir, je lui ai dit « qu'est-ce que je fais ?» Il m'a dit « tu quittes Saint-Louis, tu vas t'inscrire au PCB, tu deviendras interne et tu seras médecin. » Voilà, c'est tout simple. Bon, alors pourquoi l'ophtalmologiste? Tout simplement parce que la jeune femme que j'ai rencontrée quand je me suis inscrit en médecine était fille d'ophtalmologiste et que mon beau-père, le docteur Brevet, avait une très belle clientèle. Et quand il m'a dit, quand j'étais interne, il m'a dit « écoutez, c'est bien de faire de la médecine générale, mais regardez, ce ne serait pas si mal que vous me succédiez. Je n'avais aucune prétention d'une carrière hospitalière ou universitaire. » Et j'ai dit « bon, ben d'accord, ça m'a fait de la peine. » Mais j'ai découvert une discipline totale qui, au travers de ce petit œil, comporte à la fois les problèmes de l'œil, mais aussi les problèmes généraux, car il y a une pathologie médicale de l'œil qui est absolument fantastique et très intéressante, et la pathologie chirurgicale. Donc cette science, cette discipline qui est à la fois médico-chirurgicale m'a passionné beaucoup plus que je ne le pensais. Et ce que je regrette et ce que je dis dans mon livre, c'est que malheureusement, la part médicale de l'ophtalmologie a été déplacée par rapport à la part chirurgicale pour laquelle optent presque tous les internes des hôpitaux maintenant, puisque tout le monde est interne maintenant, et donc déplace un peu, je dirais, le regard qu'on a sur l'ophtalmologie, qui était une discipline totale, absolue, moi, que, dont exigeant une grande culture, aussi bien neurologique qu'hématologique, d'infectiologie, etc., devient maintenant très focalisée sur la chirurgie. Et ce qui délaisse un peu l'intérêt qu'ont les ophtalmologistes pour la pathologie médicale.
Alors, ce que vous appelez pathologie médicale, c'est-à-dire
toutes les uvites, les kératites, les neuropathies, etc., etc. Or, cette pathologie médicale était accomplie autrefois par les gens qui avaient un certificat d'études spéciales d'ophtalmologie et qu'on formait tous les ans et qui avaient une très, très bonne culture de la médecine ophtalmologique. Alors qu'on laissait aux chirurgiens, aux internes, les actes chirurgicaux. Certains internes venant en médecine, certains certifiés en ophtalmologie, allant en chirurgie, bien sûr. Mais il y avait tout de même, sur le territoire français, une population de médecins ophtalmologistes très calés en médecine et qui faisaient un dépistage formidable. Bon. Et qui prenaient en charge ce que maintenant, on ne prend plus tout à fait en charge et qu'on délègue à l'hôpital. Parce que les ophtalmologistes nouvellement créés sont essentiellement chirurgiens. Et donc, dans leur activité chirurgicale, ils n'ont pas toujours la place et le temps de voir la médecine. Donc, on délègue à l'hôpital, au centre hyper spécialisé de médecine ophtalmologique.
D'accord. Et que recommanderiez-vous aujourd'hui ?
Eh bien, je regrette, si vous voulez, qu'on ait, moi, personnellement, c'est très ringard ce que je dis, je regrette qu'on n'ait pas sélectionné au moins pour remplacer les certifiés en ophtalmologie, un certificat de médecine, un internat en médecine ophtalmologique qui consacrerait au moins une partie des gens. Alors, ça peut se faire, ils ont la liberté de le faire, mais jusqu'à présent, il n'y a pas beaucoup d'internes en ophtalmologie qui se destinent plutôt à la médecine plutôt qu'à la chirurgie. Oui. Voilà. Non, je pense que ça s'équilibrera, mais il y a eu une petite raison aux souffrances qu'a eu la discipline, vis-à-vis des consultants qui ne trouvaient plus de place, etc., et plus d'avis.
Oui, ça, voilà. On en reparlera, si vous voulez bien, en fin d'émission, parce que c'est un sujet très important, notamment pour les patients.
Exactement. Exactement.
Vous, justement, donc vous avez la vocation, donc vous êtes, là, je suppose, autour des années, fin des années 50, et vous entrez en 1960, c'est ça, à l'hôpital Cochin.
Oui, c'est juste après. Bon, j'ai fait un long service militaire, c'était la guerre d'Algérie à l'époque. Donc, je suis rentré, à Cochin en 60-61. Et là, j'ai commencé ma carrière. Et là, j'ai rencontré un maître, Guy Auffray, qui m'a dit au bout de quelques jours, vous serez l'agrégé. À ce moment-là, il y avait un agrégé tous les 9 ans. C'était un très, très grand privilège d'être désigné par lui-même. Et il a fait ma carrière, en réalité.
Alors, vous appréhendiez en plus la rencontre avec ce grand personnage.
Oui, parce qu'il était très sévère. C'était un homme très magnifique, en réalité. Très sévère. J'ai fait son portrait. J'ai voulu faire les portraits de mes patrons, d'ailleurs, parce que j'estime qu'ils le méritent et qu'ils seront oubliés. Mais dans l'histoire, il y aura un petit livre qui dira ce qu'ils étaient. Oui. Et Guy Auffray était un homme tout à fait remarquable. C'était un breton austère. Et je suis sûr que ma condition de breton ne lui a pas déplu non plus. Vous savez, un petit chauvinisme. Un breton austère, mais qui était d'une ponctualité, d'une sécurité, d'une rigidité qui était exemplaire. Et en plus, lorsqu'on faisait, il avait une capacité sémiologique que lorsqu'on faisait la visite en salle avec lui, des malades, c'était un livre ouvert, c'était avec plein de déductions, de digressions, etc., qui étaient magnifiques. C'était une culture médicale absolue qui a disparu.
Ouais. Alors vous avez été son second, rapidement.
Ah oui, j'ai été rapidement ce second.
Et que vous a appris justement sa fréquentation quotidienne? Qu'est-ce que vous-même vous avez transmis à vos propres élèves ensuite?
Je suis sûr que, écoutez, je pense que l'école que j'ai représentée pendant presque 20 ans a été une école Guy Auffray. Voilà. C'est pour ça que je me suis attaché à faire le portrait. Guy Offray a créé une école. Et je peux vous dire qu'au travers de moi, au travers de mes élèves, et même au travers de mes petits élèves, en quelque sorte, la méthode Guy Offray est restée. C'est une méthode de rigidité, de dévouement au malade, de générosité, de culture. C'était absolu. Le malade était l'absolu. Et ce qui a tout de même, ce qui développe à l'extrême la réponse à la vocation. La vocation, c'est aller vers l'autre.
Oui. Hein?
Bon, c'est aller vers l'autre et l'autre, c'est vous. C'est vous malade. Et vous avez la possibilité d'imaginer que vous pourriez l'aider en sachant ce que vous savez. Et à ce moment-là, aidez-le. C'est ça, il nous l'a appris. Et je pense que je l'ai transmis. En tout cas, je ne pense pas que mes élèves en aient souffert.
D'accord. Alors, vous l'avez donc fréquenté combien d'années, Guy Offray ?
Guy Offray, bien, j'étais chez lui de 63 jusqu'à 80. Et à 80, je lui ai succédé.
D'accord. Ah oui, donc en fait, voilà. C'est une vie.
Ah oui, j'ai fait. J'ai passé 30 ans à l'Hôtel-Dieu.
D'accord. D'accord. Et un autre de vos grands maîtres a été Pierre Morax.
Oui, Pierre-Victor Morax. Alors, Pierre-Victor Morax, je vous parlais de la cataracte tout à l'heure. Lui, c'était un très grand chirurgien. Et lui m'a appris ce qu'était le sang-froid.
Oui, vous parlez même d'examens qui sont quasiment des actes notariaux,
voilà,
tellement
exactement.
C'est méthodique.
Lui m'a appris vraiment la précision, l'exigence. Alors que M. Guy Offray m'a appris l'ensemble, le volume. Lui, dans le détail, m'a appris l'exigence du diagnostic et l'exigence du geste chirurgical. Et aussi la prudence. C'est lui qui m'a appris que lorsqu'il s'apprêtait à opérer le malade, il avait son cahier, l'observation, il lisait. J'ai toujours eu ça toute ma vie. Ah. Et mes élèves l'ont eu rarement et je n'ai jamais compris. Car avant de retrouver le malade, il y avait les quelques détails qui concernent sa nature, son esprit, sa crainte, son état, l'état oculaire. Et il opérait donc en pleine connaissance, en pleine remémoration de son cas, etc. Et après, il était d'une habileté extrême, d'un calme absolu. Je dirais qu'il m'a appris à affronter le danger, le risque chirurgical.
Alors ça, c'est quelque chose que vous expliquez donc, dans L'œil dévoilé, l'œil guéri, donc, paru aux éditions Odile Jacob, dans un chapitre qui s'appelle L'art de bien opérer. Et vous étiez son second. Alors qu'étiez-vous à ses côtés?
J'étais son interne.
Son interne.
J'étais son interne. Il aurait bien aimé que je sois son successeur. J'étais très lié à M. Offray. J'étais aussi lié à M. Bréja, dont je parle, mais différemment. C'est-à-dire que j'en fais état, je fais état de mon parcours d'internat.
Qui était M. Bréja ?
M. Bréja était un autre professeur d'ophtalmologie qui était un périgourdin, alors lui, à l'accent, qui était un homme très très riche en couleurs, mais tout à fait l'inverse de M. Offray. Et M. Bréja m'avait aussi demandé d'être son agrégé. Donc j'ai dû choisir entre les deux, ce qui n'a pas beaucoup plu à M. Bréja. Et en plus, nous sommes heurtés en 68. Je raconte tout ça. Parce qu'il avait une nature tout à fait différente. C'est-à-dire que, bon, on laissait aller. Mais un monsieur intéressant, très intelligent, avec lequel on s'est naturellement retrouvé. Je l'ai retrouvé plus tard. Mais était une nature très différente. Je décris des patrons qui, à l'époque, avaient un vrai pouvoir, un grand pouvoir. Ce qui est moins maintenant. Maintenant, il y a plus une répartition des tâches. Je ne dis pas que c'est plus mal. Probablement que c'est plus orienté, plus spécifique, plus spécialisé que de mon temps, où on faisait un peu tout. Maintenant, toutes les gens
sont très hiérarchisés et segmentés. Ouais.
Oui, très segmentés.
Alors, est-ce que ça ne nuit pas néanmoins à... Comment dirais-je, à la complétude, si je puis dire, du praticien. Parce qu'il faut être un homme complet aussi, non ? Et est-ce que là, on n'est pas un peu enfermé dans sa spécialité ?
Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est dans la réunion des connaissances diverses, dispersées, que peut se solder, je dirais, vraiment un avantage.
Oui.
Alors qu'avant, on peut se dire aussi que connaissant tout, on ne connaissait rien.
On ne connaissait moins, en tout cas.
Hein, voilà. Alors, l'autre remarque, c'est par rapport à l'évolution. Je revendique d'avoir été un mandarin. Et je revendique les avantages du monde aréna. J'ai eu une école, absolument, pardonne de dire, c'est à l'école que je le dois, une notoriété qui était liée à l'organisation d'un service qui dépendait tout de même de ma personne. Et qui était en parfaite, consultation des autres, coopération, compromis avec tout le monde, mais c'était représenté par une personne. Bon, maintenant, on a dispersé, je n'en discute pas du tout, mais je revendique d'avoir été un mandarin, et finalement, d'avoir pu exprimer, je l'espère...
Les vertus du mandarinat, alors.
Voilà, voilà. Ce qui consistait à faire d'énormes services qui avait tout de même une réputation tout à fait justifiée et qui nous a valu, sur le plan international, d'être quand même très, 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 très largement reconnu.
Oui, c'est un des points que je voulais traiter d'ailleurs avec vous. Donc là, on vient d'évoquer donc vos maîtres, mais il faut peut-être aussi parler un peu de vous. Vous avez une formule, une réponse qui peut-être traduit un peu votre façon de partir... en chirurgie, comme peut-être on partait à la guerre, puisque vous citez Napoléon, qui, donc je cite l'ouvrage donc, du professeur Yves Pouliquen, « L'œil dévoilé, l'œil guéri », donc chez Odile Jacob, et vous vous souvenez de Napoléon, donc, qui répondit à un jeune officier qui lui demandait à Vienne, alors qu'il venait de gagner la bataille difficile donc, de Wagram, donc c'est 1809, je crois,
oui.
Donc le jeune officier lui demande « Sire, comment faites-vous pour gagner toutes les batailles ?» Et lui répond Napoléon « Eh bien, parce qu'à chacune d'elles, j'ai imaginé 100 fois comment les perdre. » Et vous semblez dire que c'est la même chose pour
Exactement.
Le chirurgien. Alors.
Et je l'ai dit à mes élèves constamment. Ouais.
Ah ben bah alors je suis content d'avoir trouvé la citation.
Oui, non, j'ai dit constamment, j'ai dit vraiment, Napoléon avait raison. Mm-hmm. Et quand nous partons en chirurgie, eh bien, il y a un plan, il y a une stratégie. Et dans cette stratégie, il faut imaginer comment les va. Mm-hmm. Et je pense que le calme, que souvent on pose la question, mais comment un chirurgien devient-il calme? Comment peut-il affronter des choses difficiles? Et quand on est... quand on a une certaine réputation, forcément, les cas sont de plus en plus difficiles sur des yeux uniques. Mmh. Bon, ce qui veut dire qu'à chaque fois, on joue quand même très, très, très gros. Et c'est quand même quelque chose de très tendu. Hein, c'est une approche quand même qui pose des problèmes. Eh bien, Napoléon m'a toujours aidé. Car, je vais vous dire un truc. Quand je devais opérer un personnage ou... Enfin, personnage avec un cas. Personnage parce que c'était très compliqué, ou alors un cas très difficile. Avant de m'endormir, j'opérais l'œil.
Ah oui.
Comme Napoléon faisait
ses plans de bataille.
Voilà. Ouais. Et j'imaginais à tous les temps, connaissant parfaitement ce qu'était la difficulté, en me disant s'il se passe ceci, je pourrais, bon, je ferais ceci, je ferais. Eh bien. Immédiatement après, je m'endormais pour 8 heures.
Donc vous aviez un plan de l'œil comme Napoléon pouvait avoir un plan
de l'œil. Eh bien oui, écoutez, oui, la comparaison s'arrête là. Mais je vous dis, c'est un truc. Ouais. Et après, parce que j'étais plutôt timoré dans ma vie. Enfin, j'étais plutôt proustien qu'un gaillard...
Mussolinien,
oui. Et j'étais plutôt d'abord sensible avec les choses. Et je me suis, a posteriori, dit, mais comment t'as pu faire ça? Et en réalité, c'est une chose qui se produit au cours des ans.
Naturellement.
Oui. Et puis, après, on a des principes comme ça. On a des choses, on a des phrases, on a des attitudes, on a, en somme, une morale.
Et qu'est-ce qui est dur dans l'ophtalmologie? Est-ce que ça saigne, par exemple?
Non, ça ne saigne pas. Ce qui est dur, c'est que c'est le résultat.
C'est la responsabilité.
La responsabilité, car si ça marche, on voit.
Ouais.
Si ça ne marche pas, on ne voit pas.
Ouais.
Voilà.
Et vous avez des souvenirs comme ça d'opérations particulièrement délicates ou dures qui vous ont marqué dans votre carrière?
Si vous voulez, sur les milliers d'opérations que j'ai faites...
Si on en retient quelques-unes, voilà.
Eh bien, il y en a 300 que je me souviens toujours. Et d'ailleurs, je dirais que les malades se souviennent aussi parce que je vois encore certains de ces malades. J'exerce encore un petit peu, donc je vois encore ces malades que j'ai opérés il y a 20 ans, il y a 30 ans, etc. et qui me sont reconnaissant que nous ayons gagné. Il y a, hélas, des cas où j'ai perdu. Mmh. Et je me souviens, alors là, atrocement.
Auriez-vous un succès et un échec à nous raconter donc pour Canal Academy?
Non, j'ai un succès, oui, j'ai oui, des succès de Dieu qui, chez des jeunes enfants, étaient absolument, je dirais, consacrés à la cécité. Et qu'en les opérant avec des choses très compliquées, très difficiles, j'ai réussi à leur donner, je pense à une petite fille sourde, muette, aveugle. Cataracte congénitale et glaucome congénital. Cette petite fille m'écrit toujours « Comment vas-tu ?» etc. Je l'ai opérée, elle avait 3 ans. Elle a maintenant 40 ans. Oh. Et elle voit toujours 4 dixièmes. Et c'est par les 4 dixièmes qu'elle est employée des postes et qu'elle a pu rééduquer sa surdité. Bon, voilà un cas merveilleux auquel je pense toujours. Je pense aussi à une madame, une bretonne qui est pianiste, qui avait un pauvre 40e et à laquelle j'ai donné 2 dixièmes et que je vois encore et qui vit. Bon, et puis je vois aussi une catastrophe, c'est-à-dire un de mes patients qui n'avait qu'un œil pour lequel il fallait que je fasse une greffe de cornée. Et lorsque j'ai ouvert l'œil, il a fait ce qu'on appelle une hémorragie expulsive, c'est-à-dire l'œil se vide complètement, de toutes ses membranes. Bon.
Et là, ça ne se contrôle pas, en fait.
Ah non, vous êtes assis. Non, alors maintenant, on a des méthodes, si vous voulez, d'approche qui permettent tout de même de prévoir et peut-être d'en éviter une part. Mais ça existe toujours. Ouais. Et là, quand vous restez... il n'avait qu'un œil. Hein, et quand vous restez avec lui, que vous voyez cet œil se vider, ben je vais effrayer tout le monde. Je vais ajouter que c'est très rare, mais ça peut exister. Bon, ben, j'ai le souvenir de ce malade, je sais même son nom, si vous voulez, parce qu'on n'oublie pas une personne comme ça.
Hein. Oui, c'est tragique, effectivement. Alors, vous évoquez, de manière un peu plus... ça semble une espèce de gourmandise de chirurgien, une espèce de passion pour la cornée, justement, dans le livre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est spécifiquement intéressant?
Je vais vous dire que la cornée est responsable, probablement... d'une grande part de la création de la recherche en France, une recherche ophtalmologique qui n'existait pas. Et pendant mon service militaire, je me suis intéressé à ce tissu transparent, à essayer de comprendre pourquoi il était transparent. C'est un problème que je me suis posé. C'est un problème qui m'a permis mes premiers contacts avec les Américains, qui m'a permis d'accéder à la microscopie électronique.
Ah oui, en secret.
En secret. Et donc, de me lancer dans l'étude de ce tissu dont j'ai contribué, si vous voulez, d'une façon, je dirais, probablement assez notable, puisque j'en fus très récompensé, à l'explication de la transparence de la cornée, de la transparence physique. Mmh. C'était donc un problème d'anatomie, un problème d'histologie, un problème de loi physique, un problème de biologie, un problème de biologie moléculaire, etc. Mmh. Donc, c'était un éventail complet qui a créé mon secteur de recherche, à l'INSERM sur la cornée. Voilà. Et à partir de là, permis de classer toutes les dystrophies cornéennes par la microscopie électronique. Voilà. Donc, ça a été ma spécialité, autour de laquelle, bien sûr, se situaient bien d'autres choses, puisque j'opérais les glaucomes, cataractes, enfin, tout ce qu'on appelle la chirurgie du segment antérieur.
Ouais. Voilà. Et là, vous étiez, lorsque vous parlez justement de ces outils de plus en plus techniques, vous étiez en plein au cœur de ce développement prodigieux, finalement, qui a été l'ophtalmologie dans les années... Enfin, qui a connu l'ophtalmologie dans ces années.
Là, c'était le domaine de la recherche, qui lui...
Parce que, déjà, à l'époque, les outils dont vous disposiez, vous évoquiez tout à l'heure que vous opériez comme au 19e siècle. Oui. Ça terroriserait aujourd'hui un jeune ophtalmo des années 2010, non?
Oui,
s'il se retrouvait avec les mêmes techniques que vous,
il serait perdu.
D'accord.
Il serait perdu. Mais à l'inverse, si j'étais resté celui-là, j'aurais été perdu aussi.
Ah bon?
Voilà. Oui. Non, parce que, alors là, bon, dans la recherche, c'est une chose, mais dans la clinique et dans la chirurgie de la cataracte, pour reprendre cet exemple unique, son nez, le microscope qui a grossi l'œil a remplacé les loupes.
Oui.
Bon. Ensuite est apparue toute miniaturisation des instruments.
Et l'imagerie ensuite.
L'imagerie. Oui. Puis ensuite, la phacoémulsification, c'est-à-dire une méthode tout à fait différente qui introduisait une façon d'opérer absolument sans rapport avec la précédente. Et elle permettait, par une petite incision, de rentrer une sonde, mm-hmm. et avec des ultrasons, d'émulsifier le cristallin, de garder son enveloppe et de mettre dedans, dans l'enveloppe du cristallin, un implant. Lequel implant est arrivé aussi en même temps que un peu avant, si vous voulez, la phacoémulsification, ces nouvelles méthodes. Mais tout cela s'est conjugué pour tout à coup me placer, moi, à 50 ans, devant une nouvelle façon d'opérer, alors que mes malades étaient contents de mes méthodes classiques.
Ah oui, c'est ce que vous évoquez
déjà. Déjà très affinées par rapport à ce que j'avais appris au début. Et il m'a fallu complètement
tout réapprendre.
Ouais. Et c'était quand même passer d'une technique à une autre et conserver à ces malades la même sécurité. Ben je peux vous dire que c'était...
C'était très compliqué.
Ouais. Donc j'ai appris avec un de mes élèves, un de mes chefs de clinique, Alain Benahim. Je lui ai dit, écoute Alain, vous connaissez bien la chose, vous êtes un homme patient, gentil, je me mets votre interne pendant 25 cataractes. Voilà.
C'est prodigieux. Enfin, c'est, un...
ben, c'est pas prodigieux. Non, c'était tout simplement malin parce que ça m'a permis d'opérer. Oui. Ça m'a permis d'opérer encore 20 ans.
Oui. Hein,
voilà. C'est alors qu'autrement, j'aurais été, comme certains de mes confrères à ce moment-là, mis à l'écart.
Oui.
Mais ça a été prodigieux. Alors, vous parliez des autres choses, c'est l'imagerie.
Oui.
Nous sommes partis finalement du biomicroscope, c'est-à-dire un microscope horizontal qui permet de grossir l'œil, d'étudier ses mains, jusqu'à une instrumentation telle que nous avons maintenant, en quelques minutes, une analyse quasi histologique de l'œil par l'imagerie. On coupe la rétine en morceaux, on voit la cornée, on voit l'angle iridocornéen, on voit l'œil. On a à notre disposition des images qui même... peuvent, je dirais, nier l'importance de la sémiologie.
C'est-à-dire
être tellement lisible,
oui.
et tellement instructif qu'on abandonnerait presque l'étape clinique initiale qui nous permet de faire l'acte notarié que disait M. Morax, qui nous permet de faire les choses les unes après les autres, sans idée préconçue, de les compléter par l'imagerie.
Par cette vision.
C'est ce que je recommande. C'est-à-dire d'abord comprendre, essayer de comprendre, puis ensuite les images vous donnent les solutions et confirment ce que vous avez déjà senti. Et je pense que ce que vous avez analysé d'abord, plus l'imagerie, dévoile l'œil. Et souvent le guérit.
Oui.
Voilà.
Aujourd'hui, ce sont des pratiques... comment dirais-je, je ne dirais pas anodine, mais banale, opérations de la cataracte.
Oui, non invasive.
Décollement de rétine, etc.
Alors, l'opération de la cataracte, oui, maintenant, écoutez, je pense que tout interne qui se forme en chirurgie de cataracte devient un opérateur qualifié et en lequel on peut avoir confiance. Parce que c'est tellement... avant, il y avait un hasard d'artiste. Maintenant, il y a, une règle d'ingénieur qui fait que chaque temps, etc., est contrôlable. La pression de l'œil est entretenue normalement.
Les accidents sont limités au...
Oui, il y a quelques accidents, bien sûr. C'est toujours une intervention de cataracte. Comporte toujours des petits risques, mais infiniment moins qu'avant.
Oui,
et ça, c'est un progrès magnifique. C'est un progrès magnifique. Alors, il n'y a pas que la cataracte. La rétine était quelque chose, quand je l'ai connue, un décollement de rétine sur deux était condamné à la cécité. De l'œil. Maintenant, 95% des rétines sont réappliquées. Ça ne veut pas dire que tout récupère une acuité visuelle antérieure, mais...
Mais on ne perd plus la vue.
On ne perd plus la vue. Oui, non, mais tout a changé. Mais la médecine, l'ophtalmologie est devenue miraculeuse. Et ce qui m'a frappé, pourquoi j'ai écrit ce livre, c'est que je me... Vous savez, quand on vieillit, je suis très vieux maintenant, on repense à sa jeunesse, et je me disais que si on m'avait dit... alors que je commençais l'ophtalmologie, comment imagines-tu l'ophtalmologie dans 50 ans ? J'aurais dit des bêtises, mais j'aurais assorti ma réponse de tout ce que les moyens que j'avais à l'époque. Alors j'aurais pensé que la stérilisation, les instruments, les choses, le grossissement, sans doute ça j'aurais imaginé. J'aurais été incapable de prévoir tout ce qui est arrivé après, et surtout en matière de technologie et d'imagerie.
Oui, forcément. Oui.
Ouais.
Avec personne.
Mais à un tel point, si vous voulez, que je me dis quelquefois, tu serais comme Louis XIV s'il voyait une 4 chevaux au Renault. Non, mais écoutez, je trouve qu'il y avait déjà dans cette évolution une annonce de l'IA. Parce que c'est la conjonction des mathématiciens, de la numérisation, des physiciens, des médecins, etc., des biologistes, qui ont fait que tout à coup, ces connaissances qui se sont rassemblées avec une technologie magnifique...
ont permis une démultiplication du savoir.
Démultiplication des choses, et un apport.
Mais c'est vrai aussi pour la recherche spatiale.
Pour tout, exactement. Pour tout. Et je me dis qu'actuellement, je ne me risquerais pas, après dire ce qu'il y aura dans 15 ans.
Même dans 15 ans.
Parce que dans 15 ans, on peut imaginer que la cataracte se fera automatisée, l'opération automatisée dans sa presque totalité.
C'est remarquable. Hein. Ouais. C'est rassurant pour les
Mais
pour
regardez, les la chirurgie patients, réfractive, la chirurgie réfractive, la chirurgie de la myopie, de l'hypermétropie, de l'astigmatisme. Personne ne pouvait imaginer que maintenant, on traiterait les myopes, les hypermétropes, avec deux lasers combinés et une intervention humaine qui n'est que dans la réflexion. Mais le reste se fait automatiquement, enfin, se fait tout à fait sans toucher.
Oui. Alors, nous arrivons malheureusement vers la conclusion. J'ai une question qui fâche. Comment faire, parce que ça n'était pas vrai ça il y a 50 ans et c'était peut-être mieux, on obtenait beaucoup plus facilement un rendez-vous avec un praticien et ses technologies merveilleuses, on pouvait le rencontrer. Et lorsqu'on le rencontrait, on n'avait pas l'impression d'être dans une espèce de laboratoire, un salon d'abattage. On avait du temps aussi pour parler avec son praticien. Alors, comment expliquer déjà cet effondrement peut-être du service, malheureusement? Et vous évoquez dans votre livre des pistes pour retrouver cette qualité de service.
Alors... Oui, qui sont d'ailleurs ouvertes. Elles sont ouvertes. Elles sont ouvertes. Il y a eu deux conditions. D'abord, les services de santé de l'État n'ont pas estimé, n'ont pas prévu ce qui allait se passer. Une population qui, lorsque j'étais jeune interne, avait une durée moyenne de vie de 55-60 ans, qui maintenant est de 80 ans. Ce qui a créé une multiplication des patients en ophtalmologie, car l'ophtalmologie est une discipline qui intéresse essentiellement les gens de plus de 50-60 ans. Donc il y a cela. D'autre part, on n'avait pas prévu que la suppression du certificat d'études spécialisées d'ophtalmologie, qui en formait 300 par an, n'était remplacée que par 50 à 60 internes dans l'année. Bon. Et il a fallu tout ce temps, c'est-à-dire presque 20 ans, pour que maintenant, on en accorde 150. Et 150 qui, finalement, sont pour la plupart chirurgiens et ne font pas non plus, ne répondent peut-être pas tout à fait à la demande médicale de l'ophtalmologie. Alors, il est vrai qu'il y a eu manifestement, je dirais, un mauvais calcul des choses qui aboutit maintenant à des délais de rendez-vous d'un an dans certains départements. Bon, c'est en train de s'arranger parce que...
Oui, vous êtes optimiste.
Oui, je suis optimiste. Non, parce que maintenant, si vous voulez, on a conçu des délégations de gestes aux orthoptistes qui assistent maintenant les médecins, à des assistants qui font aussi les examens complémentaires. Et on a permis aussi, avec les opticiens, des rapports beaucoup plus faciles, etc. Donc, on améliore la situation, sans doute. Mais il est vrai que lorsque on consulte maintenant un ophtalmologiste, on passe d'un examen... D'abord, on passe devant des appareils avec des gens qui ne sont pas l'ophtalmologiste. Puis quand l'ophtalmologiste revoit le malade, il a son ordinateur sur lequel sont concentrés tous les examens. C'est absolument parfait. Il a donc à dire au malade ce qu'il pense de son état et de formuler son ordonnance qui est immédiatement transcrite et imprimée ailleurs. Il est évident que ça change terriblement avec... la pratique que j'ai, moi, encore, qui est une pratique singulière, qui est paisible, etc. Là, d'une part, les ophtalmologistes sont pressés par un nombre de malades incroyable, et d'autre part, ce qui sépare le contact, la durée de contact vraie avec le médecin est relativement, forcément réduite. Ce qui a créé chez les vieux malades certains ressentiments, pas chez les jeunes. parce que les jeunes, maintenant, sont habitués à cette technique. Ils sont eux-mêmes toute la journée avec leur portable. Ils comprennent très bien qu'on fasse des examens, que ce ne soit pas le médecin, et que le médecin qui a sur l'ordinateur, sur sa toile, absolument tout ce qu'il faut, est en mesure de lui donner les traitements. De même que dans les indications chirurgicales, je trouve que les jeunes sont beaucoup plus confiants que n'étaient nos malades autrefois. Et nos malades, il fallait une compassion énorme. Il fallait leur dire beaucoup de choses pour qu'ils acceptent un acte chirurgical qui était imparfait. Alors que maintenant, finalement, le médecin, il se dit, je le guéris. Alors.
Oui, alors on y va.
On y va, voilà. Oui.
Bon, et bien sur ces mots, professeur Yves Pouliquen, merci de nous donner de l'espoir. Merci aussi d'être venu sur Canal Académie. Cette émission se termine et je vous donne rendez-vous, donc, chers auditeurs, à une prochaine fois en vous souhaitant une bonne journée. Au revoir.
Bien, merci.
Merci d'être venu.